Avant, on reçoit Taran Marek, conseiller municipal en charge de la langue bretonne à la ville de Brest. Salut.
Salut.
Alors, du 12 au 21 mai, c'est la 15e édition de la Fête de la Bretagne. T'es en charge de la langue bretonne, mais c'est vrai que là, c'est aussi la Fête de la Bretagne. Quels sont les événements, si tu peux nous en donner quelques-uns, qu'on pourra retrouver ce week-end dans Brest?
Bah, à Brest, on a surtout le Printemps des Sonneurs samedi. Un ensemble d'événements un peu partout à Brest, gratuits et accessibles. Surtout Place de la Liberté avec de nombreux concerts, des ateliers organisés par les associations qui travaillent sur le domaine comme Skid qui va faire des séances d'initiation en breton, de nombreux autres ateliers avec le CBAP ou de la musique. Il va y avoir aussi de nombreux bagades à Brest avec trois bagades de première catégorie et qui vont faire de la musique un peu partout à Brest. Il va surtout y avoir à 16h un passage de tous les bagades sur le cours d'Ajot, en espérant qu'il fasse beau. Hein.
Il fait toujours beau à Brest.
Ça, toujours. Surtout au cours d'Ajot avec ce petit vent frais brestois, c'est sympa. Mais ouais, un enchaînement de musique un peu partout, Bad Siam. Il y a aussi un Fesnoz au PL Sanker. Et quelques autres ateliers par-ci par-là, partout à Brest.
Alors ça, c'est le samedi, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a aussi des événements dimanche. Il y a Astropolis qui, je crois, organise quelque chose. Il y a un truc au Capucin, mais je te laisse nous expliquer.
Astropolis qui est au fort de Pinfeld, là c'est Aguilaire, qui organise un moment de musique, un moment familial tout l'après-midi autour de musique et de jeux bretons aussi au fort de Pinfeld.
Alors tout ça, vous pouvez le retrouver hein, sur le site internet. Vous tapez Fête de la Bretagne, Brest, vous pouvez retrouver ça. Vous pouvez aussi retrouver ça sur le site de Brest Métropole. On le voit, des actions comme celles qui sont menées ce week-end, c'est aussi une façon de promouvoir le breton. D'ailleurs, il y a une charte qui existe. Je m'excuse d'avance pour mon breton, c'est Yann Dar Brezhoneg. En quoi elle consiste?
La charte Yann Dar Brezhoneg, c'est un ensemble d'engagements qui a été pris par la ville de Brest, qui est fait avec une structure qui est l'Office de la langue bretonne, qui est une structure régionale, et qui fait un certain nombre de propositions. Et on valide ces propositions en les appliquant. Il y a plusieurs niveaux. Brest a déjà validé son premier niveau. Là, on arrive au deuxième niveau, où les actions sont en cours d'être mises en place. Ça va d'un peu tout. Hein. Ça passe de la signalétique bilingue sur les noms de rue qu'on voit apparaître par-ci, par-là, à Brest, au gré des changements de plaques. Ça peut être aussi l'initiation à la langue bretonne dans les écoles brestoises qui est financée par la ville et mis en place par la fédération d'associations SKID. C'est aussi la communication, le breton sur les affiches de communication de la ville. C'est vous pouvez, si vous passez devant la mairie, parfois sur les côtés il y a deux grandes affiches et généralement il y en a une qui est en breton, l'autre qui est en français. Et ça, les invitations, les répondeurs, c'est toute la présence de la langue bretonne, le travail avec les associations et qui doit être mis en valeur et ça passe par ces engagements au sein de la charte.
Alors, tu parlais des engagements, c'est vrai que ça correspond aussi à des niveaux. Aujourd'hui, Brest, c'est quoi comme niveau?
Alors, c'est le niveau... Là, on est en train de valider le niveau 2. C'est-à-dire qu'on a, on a mis en place un certain nombre de choses. Il y a quelques choses qui restent à fignoler et pour que l'office valide ce niveau et que par la suite soit lancé un débat au sein de la majorité, au sein du conseil municipal sur la continuité de ce qu'on va faire, est-ce qu'on va plus loin, quel choix on va faire sur les engagements que va prendre la ville, étant donné que ça c'est des engagements qui vont se mettre sur plusieurs mandats. Du coup le débat doit être tenu, est-ce que ce sera tout de suite, est-ce que ce sera plus tard. Ça, ce sera tout l'enjeu du débat qu'il y aura au sein du conseil.
Alors, tu le disais, niveau 2. Niveau 2 sur 4, Carré, par exemple, est au niveau 4. Comment on explique que Brest est quand même une grande ville? Il y a plein d'associations. Tu as parlé de SKED. On peut penser à plusieurs bagadous hein, ou des cercles qui sont sur Brest. Comment on explique qu'on soit qu'au niveau 2 alors que Carré est déjà au niveau 4?
Ça s'explique sur plein de choses. C'est déjà tout d'abord... Il y a toujours eu une histoire à Brest de ville française au milieu d'un territoire bretonnant, ce qui est à la fois vrai et pas vrai étant donné l'évolution de la forme de la ville, quoi, de nombreux petits Lambé était plus bretonnante avant, ou ce genre de choses, quoi. Les nombreuses petites villes qui ont été absorbées étaient bien bretonnes. Il y a toujours eu du breton à Brest. C'est quelque chose qui a pris un peu de temps à être mis en place. Après, il y a eu un beau dynamisme qui s'est lancé. Et il faut aussi voir qu'il y a aussi des questions d'échelle. C'est pas la même chose de changer tous les panneaux de rue à Brest ou à Carhaix. C'est pas les mêmes budgets. C'est pas les mêmes ressources qui sont nécessaires. Et ces choses-là prennent du temps. On est sur la bonne route, hein. Je pense pas qu'on ait à rougir sur les choix qu'ont fait les élus brestois jusqu'à présent. Enfin, je vois, on a, par exemple, si on parle des filières publiques, on a 6 filières en bilingue public. C'est à Brest, c'est quand même 600 enfants en tout, 650 qui entre Diwan, le public, le privé, qui sont dans les filières bretonnes. Et ça, on parle pas encore de l'initiation à la langue bretonne. C'est des échelles qui sont importantes, c'est des choses qui prennent du temps à être mises en place, qui nécessitent aussi des professeurs, qui nécessitent aussi du travail dans les services, des choses qui prennent du temps, mais je pense que on n'a pas le but, c'est pas d'être les premiers, c'est de faire ce qu'on peut et faire le maximum possible. Et je pense que Brest, depuis ses derniers mandats, a un très beau dynamisme sur ça et est en train de rattraper, je pense, son retard par rapport à d'autres villes.
Alors tu parles de l'importance aussi du breton au sein du milieu scolaire éducatif. J'ai vu hein, que c'était en projet donc une crèche en langue bretonne qui doit ouvrir à Brest en 2023. C'est une première dans le Finistère. On en est où de ce projet?
Bah le projet est très très bien lancé. Là, c'est Skate qui s'en occupe, et en passant, Skate qui est en train de chercher une directrice pour cette future crèche, du coup,
Si des
si
auditeurs ou
c'est
auditrices
ça,
nous écoutent.
sont intéressés. Et donc oui, bah le projet est très bien lancé. Moi, je vois régulièrement Skate, ils sont bien à fond sur le projet. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour Brest d'avoir cette crèche immersive qui va pouvoir accueillir normalement dès l'année prochaine des enfants. Pour renforcer encore plus, hein, c'est sûr que si on prend au plus tôt les enfants, c'est là que la langue arrive vraiment à s'ancrer et qu'on peut vraiment espérer avoir du bilinguisme vraiment vraiment riche et intéressant. C'est vraiment un projet qui nous ravit vraiment à Brest, qu'on soutient financièrement, qu'on soutient logistiquement, qu'on est vraiment heureux de voir cette crèche apparaître. Et c'est vraiment encore une fois une démonstration de la qualité du travail que la ville de Brest entretient avec la fédération d'associations SCAID, qui est donc le tiers vaud-brestois, qui fait vraiment un travail formidable sur tous ces sujets-là.
Alors c'est vrai que SCAD, on les avait reçus, hein, je vous invite à réécouter le podcast sur le site de Radio U. Le fait d'avoir une crèche, par exemple, comme ça, sur Brest, est-ce que ça va permettre de gagner des points au niveau de la charte Brezhoneg ou pas du tout? Est-ce que ça peut faire partie des critères ou non?
Oui, bah, ça peut faire partie des critères. Je sais plus si c'est un de ceux qu'on avait demandé, mais c'est oui, ça sera pris en compte. Et même finalement, si on passe à un niveau supérieur et que c'est pas un critère qu'on avait demandé, c'est pas bien important, ce sera pour le niveau au-dessus, un critère qu'on aura déjà validé. C'est toujours ceci, ça qui est regardé par l'office quand il valide, c'est aussi la volonté qui est mise. Si c'est coché des cases, c'est pas très intéressant. Et si c'est vraiment une volonté de la ville, c'est vrai que des fois sortir un peu des cases et vouloir innover, vouloir mettre de l'énergie dans la chose, c'est aussi ce qui est pris en compte dans la validation du niveau pour la charte.
Alors, on le voit, il y a une vraie politique de la ville en la matière. Pour autant, ça doit avoir un impact aussi sur le budget. Quel est cet impact sur le budget de David que de vouloir valoriser autant le breton?
L'impact est pas si il est pas si important, et c'est aussi un impact qui est vraiment sur de nombreuses délégations. Ça passe de la voirie pour ce qui est des panneaux de rue, ça passe de l'éducation, la culture, l'événement. Ça va sur tous les délégations des adjoints. C'est un peu partout, et c'est des coûts qui sont finalement pas si importants. On voit par exemple pour la signalétique bilingue, c'est l'office avec qui on a un contrat qui fait la traduction, et les panneaux sont changés dès qu'il y a des panneaux qui sont endommagés. Ça fait partie de. Bah, on va pas changer tous les panneaux d'un coup. C'est vraiment quand il y a le besoin que la traduction se fait, ou quand il y a des nouveaux panneaux. Et les coûts se répartissent un peu partout. C'est pas un impact énorme, mais c'est un impact sur toutes les délégations des adjoints. Du coup, c'est au cas par cas que ça se voit, quoi.
Mais c'est vrai que ça peut surprendre peut-être nos auditeurs et auditrices qu'on se dise, qu'ils se disent peut-être, tiens, bah, une partie du budget part quand même dans tout ce qui est la question des questions de langue bretonne. Quand on voit que voilà, il y a des questions d'inflation, que les collectivités territoriales ont de moins en moins d'argent, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore justifier que des subventions partent pour valoriser la langue bretonne?
Oui, je pense que c'est toute la question de la culture, hein. Est-ce qu'une radio, c'est vraiment important par rapport à la fin du mois? Est-ce qu'un musée ou est-ce que sur la question de la culture, je pense que vraiment la culture, notre patrimoine culturel, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver, qui fait partie du bien commun qui appartient à tout le monde, cette vie culturelle, toute cette animation. Et nous, en tant qu'élus, on doit aussi défendre cette culture d'une manière accessible. Et ça passe par défendre aussi l'enseignement bilingue dans les écoles publiques, que ce soit pas limité au privé. Ça passe par faire de la culture. Là, on voit ce week-end, c'est de la culture gratuite, accessible, qui est accessible à tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est des vrais enjeux, surtout en période d'inflation où tout le monde peut pas se payer une place de concert, tout le monde peut pas aller voir des groupes de musique. Du coup, pouvoir profiter, passer sur Place de la Liberté, écouter des bagades, écouter des groupes de musique, découvrir la langue, c'est aussi des choses où il y a vraiment un besoin. Et c'est vrai que dès qu'on passe sur la signalité et tout ça, c'est pas des coûts qui sont si importants par rapport à tout ce patrimoine qu'on préserve, toute cette identité qui fait aussi partie de notre richesse, de notre bien commun, qui est important de préserver et pour transmettre aux générations à venir, quoi.
Alors tu parles de culture. Moi je voudrais te faire rebondir sur un sujet d'actualité. C'est le collège Keralet donc à Brest qui a décidé de changer de nom pour s'appeler Joséphine Baker. C'est vrai que personnellement j'aime beaucoup Joséphine Baker, mais pourquoi à ton avis il y a eu cette envie de changer de nom et qu'est-ce que tu penses de cette volonté de changer de nom?
La volonté de changer de nom était liée à une demande des parents d'élèves, si je me sens bien, mais qui était par rapport à la renommée du quartier. Après, c'est quelque chose, je pense pas que le changement de nom va régler le problème. Et je trouve ça malheureux de voir des noms bretonnants disparaître petit à petit pour des personnalités très connues comme ça. Mais je pense que Keralet, il y en a pas partout en France, et c'est aussi une richesse locale. C'est des noms qui disparaissent petit à petit, que nous à Brest on essaye de remettre en avant. Quand on choisit les nouveaux noms de rue, on essaye parfois de voir si les parcelles avaient un nom, pour donner ces noms de parcelles qui sont en breton, pour les donner à des rues. Et je trouve ça triste de que là le département aille dans une direction inverse en choisissant de perdre un peu l'identité locale au nom de personnalités qui sont certes très connues, mais c'est vrai qui ont fait des choses importantes, c'est vrai. Mais je pense pas que ça va changer énormément à la visibilité de ces personnalités là, alors que les petits noms de rue locales, bah c'est une partie de notre patrimoine qui s'invisibilise petit à petit, et c'est un peu triste, quoi, mais.
Parce que là aussi, ça peut sembler surprenant. Je me souviens plus du nom de la commune, mais c'est vrai qu'il y a une commune dans le Finistère qui avait décidé de pas changer ses noms. C'était des noms en breton. Ils avaient décidé, voilà, de pas franciser les noms et de dire non, non, on assume. Brest a cette volonté aussi avec le bilingue de dire voilà, on va faire des signalétiques. Et à côté, on a un département qui, comme tu viens de dire, hein, met des noms en français. Vous concrètement, quand on prend les collectivités, donc les communes, qu'est-ce que vous pouvez faire quand il y a des cas comme ça?
Ça, c'est là, c'est assez particulier. C'est surtout la façon dont les choses ont été faites qui était assez particulière. Il n'y a pas eu beaucoup de, c'est pas beaucoup passé par la ville. Il y a eu un choix de faire voter les gens sur des noms, sans avoir de nom breton. C'était un peu triste, mais bon, c'est aussi le choix du département. C'est aussi sa politique à lui. Je crois que sur la politique des langues régionales, il est important que chaque acteur prenne sa part de responsabilité, et la région prend sa part, la ville prend sa part. Je pense qu'il faut aussi que le département prenne sa part sur le sujet, et je pense que on apporte tout notre soutien à Skate qui fait aussi ce travail de veille en plus, en tant que fédération, qui a fait des courriers sur le sujet, qui a mobilisé la presse sur le sujet. On les soutient. Après, ça, on pourra pas remplacer le travail du département si le département refuse de ne pas prendre sa part. Du coup, c'est
Oui, c'est presque une question qu'on aurait dû poser hier à Maëlle de Calan, mais c'est vrai que pour les auditeurs auditrices qui n'étaient pas là, Maëlle de Calan n'est pas venue hier. Donc en tout cas, nous, on est bien avec Taran Marek, hein, qui est conseiller
C'est
municipal
ça.
en charge de la culture bretonne à Brest. D'ailleurs, Taran, bon, c'est pas un mystère. J'espère que tu me pardonneras de dévoiler ton âge. T'as 24 ans, on a le même âge, donc tu fais partie de ces jeunes qui parlent breton. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est aujourd'hui la place du breton chez les jeunes?
Bah, je pense que c'est assez original. Ça me fait penser à j'ai rencontré le président de l'office et qui était surpris par le fait que ce soit un jeune, s'il était plus habitué à être en contact avec des élus plus âgés sur le sujet. Et c'est aussi un peu ce qu'on voit un peu partout dans le milieu bretonnant. T'as une nouvelle génération qui sort de Diwan, Diouyèz, qui a grandi en breton et qui a envie de prendre aussi sa part dans cet engagement. Il y a toute une nouvelle génération dont je fais partie qui est un peu partout, que ce soit dans le choix de travailler en breton, dans le choix d'aller plus loin dans les études en breton, dans le choix de s'engager dans les associations, d'aller dans les fest-noz, de parler la langue, qui sont prêts à prendre le relais. Et ça, c'est vraiment moi, je suis fier de pouvoir prendre, de continuer ce travail qui a été mené par tant de gens avant moi. Et je pense qu'on est nombreux à vouloir prendre cette part de travail qu'il faut pour préserver la langue, pour la transmettre aux générations à venir et la faire vivre. Et c'est vraiment agréable de voir à chaque coup que je vois des interlocuteurs qui ont mon âge, voire certains qui sont plus jeunes et qui ont fait le choix de cet engagement. Et j'espère que moi, en tant qu'élu, je peux aussi donner cette nouvelle image et participer à faire que la langue bretonne soit aussi une image d'une langue vivante, une langue qui s'invente tous les jours et qui vit avec son époque. Et c'est une bonne nouvelle de voir des jeunes.
C'est vrai que la question peut se poser de voir. Moi, je connais des jeunes hein, qui ont appris le breton, qui par exemple sont devenus enseignants, sont devenus profs, mais qui après ont été mutés sur Paris, à Marseille ou autre. Et donc l'utilité du breton là devient minime. Pareil pour des entreprises privées. Hein, j'ai une amie qui est avocate. Maintenant, elle est au barreau de Paris, donc forcément, elle parle beaucoup moins breton sur Paris. Est-ce que ça aussi, ça peut pas être un repoussoir pour les jeunes de se dire, bah en fait, ça vaut peut-être pas le coup d'apprendre de breton puisque je risque de quitter la Bretagne. Et donc j'aurais plus d'interlocuteur en face de moi.
Après, ça, c'est tout le sujet de la culture et de plein d'autres sujets. Hein. Est-ce que tout ce qu'on apprend en maths sera utile? Est-ce que je pense pas que l'apprentissage de la langue et en règle générale la scolarité doit servir à faire un CV. Je pense que si on apprend une langue, si on apprend de la culture, si on apprend les maths, si on apprend je sais pas quoi d'autre, la biologie, tout ça, ça va peut-être pas servir forcément, mais dans notre travail, mais ça fait de nous aussi des citoyens qui vont prendre des décisions. Ça fait aussi travailler l'esprit, ça fait aussi penser différemment et réfléchir à toutes les problématiques de société avec. On formule pas les choses de la même manière dans toutes les langues. Du coup, ça ouvre toujours des axes de pensée et on perd jamais à ça. C'est quelque chose qu'on gagne d'avoir des citoyens qui parlent plusieurs langues, qui sont au courant des cultures locales, et c'est aussi un autre regard sur le monde qu'on offre et qui va faire aussi demain des citoyens différents et pas seulement une main-d'œuvre pour les entreprises. C'est aussi sur un axe d'ouverture à sa culture, d'ouverture aux cultures locales et de façon de penser le monde comme une richesse, une diversité de cultures qui se mélangent dans notre pays, et ça, on a une chance. Et moi, ça me pose pas de problème que les gens apprennent le breton pour ensuite se retrouver en Alsace, à pas du tout pouvoir utiliser le breton, mais ça leur donne un autre regard sur l'alsacien, par exemple, et c'est un peu partout comme ça, quoi.
Et justement, en parlant des langues, Ouest France a fait un article il y a moins d'un an où c'était titré « Le nombre de locuteurs brittophones est estimé à 200 000, dont 100 000 dans le Finistère ». Et la question était la suivante: parlera-t-on encore breton dans 50 ans? Je me permets de récupérer leur question et de te la poser. Parlera-t-on encore breton dans 50 ans?
Oui, je pense que normalement, là, on est sur la bonne voie. On ouvre des filières bilingues régulièrement. Il y a un engagement, il y a de plus en plus de personnes qui décident de l'apprendre en étant adulte, en étant enfant, prenant des cours du soir. Il y a un choix qui n'a jamais été aussi élevé pour apprendre le breton. Évidemment, on va perdre aussi, malheureusement, une partie de ces locuteurs qui auront appris le breton avec leurs parents, qui auront appris le français après. Il y a aussi le breton qui va évoluer. Ce sera évidemment pas le même breton parce que Ça, c'est, on oublie souvent, mais les langues minoritaires sont aussi des langues vivantes. Du coup, elles évoluent avec leur époque. Elles sont marquées par les politiques qu'il y a eu en défaveur des langues régionales. Elles seront marquées aujourd'hui par les nouveaux engagements qui sont pris. Et ce sera certainement pas le même breton. Ce sera un breton qui sera différent dans son temps, mais ce sera toujours la langue bretonne, une langue celtique avec ses sonorités, ses chants, ses danses, toute cette richesse que je pense qu'on arrivera à préserver. Ce sera une nouvelle génération qui aura appris dans les écoles d'Iwan, d'Uyez, mais ce sera toujours des bretonnants et ce sera toujours une bonne nouvelle.
Alors tu disais il y a une évolution de la langue. Là aussi il y a des voix qui s'élèvent en disant que le souci qu'il y a actuellement dans l'enseignement du breton, c'est cette uniformisation, cette volonté d'uniformiser le breton. Pour nos auditeurs auditrices, je simplifie, mais c'est vrai que normalement il y a des expressions qui sont propres au pays vanté, avec des mots qui peuvent aussi et des expressions qui peuvent être propres à la ville de Daoulas, etc. etc. Est-ce que là aussi c'est pas une façon, j'allais dire, de perdre le breton, de perdre des mots, de perdre des expressions, à vouloir autant uniformiser le breton?
Alors je pense pas qu'il y ait une volonté d'uniformiser le breton. C'est toujours la question du fait que la langue bretonne a aussi été à un moment vraiment en danger avec la volonté de l'État de faire disparaître ses langues régionales. Et malheureusement, ça a fait qu'on est passé à un moment où il y a eu une minorité de locuteurs. Je vois mon père qui est formateur pour adultes en langue bretonne. Quand j'étais au lycée, la moitié de mes profs avaient appris le breton avec lui. Ça, c'était pas une volonté politique d'uniformiser le breton. C'est juste que il y avait quelques profs pour adultes en breton et quand fallait former des profs à la langue, c'était les mêmes personnes. Du coup, il y a une diversité qui se perd et c'est aussi une diversité qu'on voit perdre partout, hein. Même pour le français, les accents disparaissent petit à petit avec le fait qu'on soit tous sur les réseaux. On reste pas dans son village comme avant, quoi. C'est les gens, même on voit dans les médias les accents qui sont de moins en moins entendus, quoi. Du coup, tous les bretonnants vont entendre les mêmes médias. Du coup, tous les bretonnants vont se déplacer un peu partout en Bretagne. Ça va lisser un peu la chose. Certains vont réussir à garder un peu l'accent, mais c'est compliqué. C'est un mélange de facteurs. Je pense pas qu'il y ait une volonté politique, hein. Ceci par le passage à l'écrit, ça on l'oublie souvent, mais le fait que la langue bretonne, qui a toujours été une langue qui s'est beaucoup transmise par l'oral, est passée à l'écrit et ça lissait un peu les choses. C'est vraiment pas une volonté politique, c'est un mélange de plusieurs facteurs qui font partie aussi de notre époque, qui font malheureusement ou pas, parce que bon, c'est aussi ça la vie d'une langue, c'est quelque chose de vivant. Du coup, quand ça vit, on peut pas contrôler. Hein, c'est on voit souvent l'Académie française gueuler sur les nouvelles expressions en français, Parce qu'une vie, une langue, ça se vit et tous les jours ça change, ça se lisse, ça crée des nouveaux mots, ça emprunte à d'autres langues, ça se réinvente tous les jours.
Tu parlais de l'Académie française, tu as même parlé de l'État. C'est bien, est-ce que ça fait la transition avec ma prochaine question, à savoir, est-ce qu'il faut officialiser, donc au même titre qu'aujourd'hui le français c'est la langue officielle sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'il faut aussi officialiser, c'est-à-dire le breton et l'ensemble des langues régionales?
Ça c'est quelque chose que, à titre personnel, j'ai porté au sein du Parti communiste. C'est pour moi quelque chose de vraiment important parce que l'idée d'office de d'un donner un statut de co-officialité à la langue dans la Constitution, c'est aussi affirmer que elles ont aussi une part d'égalité. Ça restera la langue française, la langue dans laquelle on va travailler ensemble, tous les Français, pour écrire les lois, tout ça. Mais il est aussi important qu'il y ait aussi une reconnaissance de la co-officialité des langues pour dire que on est aussi un pays moderne et qui considérons que les langues sont pas, certaines ne sont pas supérieures à d'autres, que c'est aussi une réelle égalité, c'est un multiculturalisme qui est là sur le territoire et qui a toute sa légitimité dans les territoires. Évidemment qu'il nous faut une langue pour travailler ensemble, mais ça n'en fait pas des autres langues, des sous-langues et il est important, on l'a vu avec la loi Molac, ce fait de la langue de la République a été utilisé pour saborder ce genre de loi. Et à l'avenir, si on veut pouvoir continuer à avancer sur le sujet, il va nous falloir considérer aussi dans la Constitution que nos langues régionales, territoriales ont aussi un droit de vie et qu'elles ont tout autant leur légitimité que le français, même si le français est la langue qu'on a choisie pour travailler ensemble et faire fonctionner la République ensemble.
Alors tu parles de reconnaissance, si je reprends ton terme. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait pas aller vers plus d'autonomie pour renforcer cette reconnaissance, un peu comme le modèle corse?
Pas forcément. Je pense que on peut aussi penser. Moi, je vois toujours le problème au niveau national. Je pense que c'est toujours la façon dont on se voit aussi comme pays. Ça va au-delà des frontières et de la façon de donner plus de pouvoir. Je suis pas forcément plus fédéraliste. Je pense ni indépendantiste non plus. Je suis plus pour qu'on travaille tous ensemble à aussi repenser notre pays dans sa diversité, parce que la diversité, c'est pas que les langues qui étaient déjà présentes sur le territoire, c'est aussi les populations qui sont arrivées. La France a une richesse dans son histoire, une richesse de diversité, et je crois qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour penser aussi à la France comme un pays où on parle plein de langues, où il y a plein de cultures qui se rejoignent, parce qu'on a une histoire riche et complexe. Il faut qu'on utilise ça pour faire de notre pays vraiment profiter de toute cette richesse linguistique, parce que c'est vraiment cool d'avoir autant de langues et de cultures dans ce pays. Du coup, il faut qu'on travaille tous ensemble sur ça.
Eh bien, ça sera le mot de la fin, travailler tous ensemble sur ça. Je rappelle, il y a la fête de la Bretagne, hein, c'est la 15e édition, c'est à partir de demain, c'est jusqu'au 21 mai, donc du 12 au 21 mai. Il y a plusieurs actions sur Brest, Aaron, tu nous le disais, donc n'hésitez pas à checker sur le site internet de Brest Métropole ou sur le site de la fête de la Bretagne. En tout cas, merci à toi d'être venu répondre à mes questions au micro de Radio U. Et
Merci
puis,
de m'avoir invité.
et de rien, et puis rien que pour toi, on a mis une musique en breton. Donc, Leave You Ar
Oui.
Brezhoneg du groupe Arver.
Vous dînez, 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 vous dînez